Alors, d'abord, je vous remercie pour cette occasion qui m'est donnée de présenter mon travail. Je m'excuse au préalable de mon français qui ne sera pas impeccable, même pas suffisante. Et je vous présenterai même pas un véritable rédaction, mais plutôt, je vous propose mon terrain de recherche pour vous demander des suggestions pour y travailler dessus. J'ai dit ça parce que je suis tombée un peu par hasard sur ce thème, c'est-à-dire la relation des services dans une usine où s'est confronté des ouvriers sidérurgiques et les salariés de la cantine. En faisant une recherche que je mène depuis très longtemps sur les changements dans la condition ouvrière dans une ville confrontée à la crise de la sidérurgie notamment, et je l'ai fait à partir d'une enquête sur 3 générations de sidérurgistes. Donc apparemment rien à voir avec la relation des services et même pas avec le travail des femmes. Et au bout d'un moment, dès que j'étais en train de présenter quelques résultats de mes recherches, les femmes, une des femmes qui travaille à la cantine, m'ont appelé. J'étais dans la ville où j'ai mené mon enquête pour me demander de les aider à mettre en valeur, à les faire ressortir leur situation des salariés qui travaillaient à l'usine, une usine qui était confrontée à une crise importante où il y avait une restructuration qui portait au licenciement de beaucoup d'ouvriers et par la suite aussi par la diminution du travail des femmes de la cantine parce qu'il n'y avait pas autant des ouvriers qui allaient manger. Alors, mais ils ont découvert de ne pas avoir la possibilité de mettre en valeur leur situation. Alors, je suis, comme je disais, tombée un peu par hasard sur ce thème et j'ai au début pensé que ça m'aurait donné la possibilité de voir les travaux des ouvriers, donc la condition ouvrière, d'un autre point de vue, donc ceux des usagers, les ouvriers comme usagers. Et de l'autre part, ça m'aurait permis aussi de voir le changement de la société salariale par les passages entre le travail industriel des hommes et le travail des services fait par les femmes. Donc, je voulais un peu voir qu'est-ce qu'aurait donné ces gens d'enquête. Et donc, je suis arrivée à la fin à réfléchir sur la relation de service, mais sans avoir les outils théoriques pour me démêler là-dessus. Alors, dans les mois qui ont découlé, j'ai avalé plein de littérature, plein d'articles. J'ai trouvé tout hyper intéressant, plein de suggestions. Mais je suis là avec la difficulté de maîtriser d'un côté mon terrain de recherche que je trouve très appétissant et de l'autre côté des suggestions théoriques d'analyse très intéressantes mais dont je ne sais pas trop comment faire la gestion. Il faut dire aussi que même si maintenant on est tout globalisé, on a accès à beaucoup de ressources informatiques. Il faut dire que la communauté scientifique italienne c'est très sourde au thème de la relation de service et en général au travail des salariés. C'est pas souvent. On ne trouve pas souvent des travaux de recherche qui portent sur les salariés des services, mis à part la relation des soins dans les privés, donc les travaux de care. Alors, pour revenir à ma recherche, les contextes. C'est un contexte d'une petite ville que tout le monde peut, tous ceux qui sont allés visiter l'île d'Elbe ont dû voir parce qu'on prend le bateau de Piombino. C'est une ville de la sidérurgique depuis le début du 19e siècle. C'est une ville qui est vraiment l'expression de modèle fordiste, male breadwinner, où les taux d'activité, les taux d'emploi dans l'industrie pour les hommes a été très longtemps élevé. Jusqu'à 2011, c'était encore 30% des hommes travaillaient à l'usine. Et les taux d'activité, les taux d'emploi des femmes a été vraiment toujours très faibles. Donc, il faut aussi contextualiser un peu l'analyse. Il faut dire aussi qu'à Pyongyang, les usines sidérurgiques en crise depuis la fin des années 80 vivent maintenant en situation d'extase hein, et d'agonie qui a vu. En effet, on ne travaille pas. On garde avec un mécanisme tout à fait italien, je pense que c'est le cassa integrazione guadagni, l'emploi sans que les gens travaillent vraiment. Et donc c'est un peu dans ce contexte que j'ai fait plein d'entretiens avec des ouvriers de la sidérurgie, mais j'ai aussi fait 22 entretiens à les salariés de la cantine, donc la totalité des salariés de la cantine, aussi que d'autres entretiens avec les femmes qui font le nettoyage. Donc c'est vraiment un cas de figure, un profil qu'on n'avait pas l'impression que pouvait, qu'on oublie toujours, hein, parce qu'on pense à l'usine comme un lieu de travail masculin où il y a seulement les ouvriers. Alors, pour essayer de faire un peu d'ordre, pas d'analyse, mais d'ordre dans mon matériel de recherche, j'ai isolé trois thèmes. Le premier thème, c'est le travail des services. Donc, qu'est-ce qu'elles font, les femmes, dans leur travail? Et j'ai choisi ce thème. Allumez votre souris, parce qu'apparemment, tout ce qui est demandé aux femmes à la cantine, c'est d'être souriantes. Elle sert à une nourriture qui s'est vraiment pourrie, parce qu'à cause du système de la sous-traitance que les entreprises gagnent avec les prix plus bas, alors il y a une espèce de contrainte à épargner surtout, dont la nourriture. Alors, les souris, selon les responsables, c'est grâce aux souris des femmes que les ouvriers ne feront pas trop cas à la nourriture qui n'est pas appétissante. Et donc, j'ai pensé que cette injonction avec qui la responsable de la cantine ses collègues à accueillir les ouvriers qui venaient manger, mais me paraissait évocatrice de ce qui s'est passé là-dedans. Alors, ce que j'ai pu voir, c'est que dans ce genre de travail des services, il y a un côté, une dimension matérielle qui demeure très importante. Alors, il y a des contraintes des temps. Les femmes que j'ai interviewées parlent de travail à la chaîne, beaucoup plus que les ouvriers qui, dans la sidérurgie, sont pas liés au rythme de la chaîne. Mais elles, par contre, elles ont un travail très, très routinisé et très, très rythmé. Et il y a aussi, à côté de ça, la fatigue physique, c'est-à-dire c'est un travail lourd, on ne pense pas, mais c'est un travail très lourd, et elle raconte qu'elle rentre les soirs épuisée par... Elle ne travaille que 3 heures par jour, mais ça, c'est quand même épuisant. Et le second aspect, c'est la nécessité à mobiliser des compétences relationnelles. Qui doit être d'un côté modulé avec la disponibilité de temps. Donc il n'y a pas les temps pour faire du relationnel, même si on est censé le faire. Et de l'autre côté, il y a un problème de gestion de la relation avec des ouvriers, donc en partant du fait qu'elles sont des femmes dans un millier d'hommes. Et la relation risque de glisser tout le temps dans un registre sexuel très fort, et donc elles ont l'impression de devoir tout le temps se protéger. Donc il faut être souriant, mais pas trop. Il faut être gentil, mais pas trop. Mais pas donner l'idée de l'être trop. Mais il y a aussi le fait quelqu'un d'entre elles ont l'impression de devoir être gentil vis-à-vis des hommes qui sont à la fois leur mari, leur enfant ou leur père. Donc l'idée de vivre, d'être issu d'un contexte où le travail ouvrier c'était important, leur donne l'idée d'avoir une espèce de mission vis-à-vis des hommes. L'autre thème, c'était plutôt la relation des services entre salariés et de la cantine et sidérurgiste. Donc, qu'est-ce que ça signifie servir des hommes pour des femmes ? Il y a tout des narrations à propos de la stratégie des mises à distance. Ils disent, ils sont pas des animaux. Pourtant, ils sont pas des animaux, même si elles soulignent tout le temps les jeux de mots, les sous-entendus qui peuvent caractériser la relation avec les ouvriers. Il y en a qui disent peut-être avec des employés de la banque aurait été différent. Donc il y a cette idée que la façon dont la relation et la gestion de la relation ressent beaucoup de ce qu'il y en a en face, donc de la culture de ce qu'il y en a en face. Et il y a aussi cette idée de glissement dans les familiales. Alors, les ouvriers ont tendance à considérer les femmes plutôt comme des femmes à la fois, leurs femmes et des femmes, plutôt que comme des salariés. C'est-à-dire, cette identification au travail, c'est très difficile. L'autre dimension qui tient à la relation des services, c'est le fait qu'elles sont confrontées à un client qui est différencié. C'est-à-dire, c'est à la fois les ouvriers, mais c'est aussi la responsable de l'entreprise de restauration qui fait la gestion de travail des services et donc il leur demande d'avoir une attitude gentille ou bien d'être disponible à faire des extras, à faire d'un travail à côté. Mais elles sont soumises aussi au contrôle de management de l'entreprise sidérurgique qui sous-traite le travail de gestion de la cantine. Alors il y a tout un problème, par exemple, des sécurités, des surveillances dans l'usine auxquelles elles sont soumises. Par exemple, elles ne peuvent pas, quand elles vont porter le repas sur les ateliers, elles ne peuvent pas rouler à la vitesse qu'elles veulent. Elles doivent respecter des limites. Et si elles ne font pas, elles sont obligées à rester à la maison pour 3 jours. Le manager qui n'aime pas leur façon de servir peut aussi demander que les femmes soient mises d'à côté ou changées de place. La dernière dimension que j'ai analysée, ça tient à la mobilisation que cette femme a faite, et donc dans les contextes où elles m'ont appelée. Et j'ai appelé ça Lizzy Strata à la cantine parce que d'après les récits qu'elle avait fait, j'ai eu l'impression que vraiment c'était la crème d'un Aristophane. C'était la rébellion des femmes vis-à-vis du pouvoir des hommes. Donc on les privait de la nourriture plutôt que du sexe, comme dans la comédie d'Aristophane, parce que c'était la seule façon qu'elles avaient pour faire ressortir leur situation. Et la situation, c'était que dans un contexte de restructuration et de plan social, elles n'avaient pas été considérées comme les hommes. C'est-à-dire, les hommes pouvaient bénéficier, les ouvriers pouvaient bénéficier d'un contrat de solidarité, donc quelque chose un peu de mieux que la cassa integrazione, mais elle avait été exclue de la concertation avec les syndicats, et donc elles se sont mobilisées à la fois contre, c'était pas contre les patrons, c'était plutôt contre les syndicats des hommes, et contre les hommes et les syndicats des hommes. Et donc, elles ont en effet réussi à avoir, grâce à leur mobilisation, une mobilisation très féminine, c'est-à-dire elles ont utilisé des stratégies qui étaient très différentes de celles des sidérurgiques, et elles ont été très stigmatisées par les hommes et par les syndicats des hommes pour cette mobilisation. Elles ont été traitées d'hystériques, et etc., mais elles ont gagné leur bataille, mais surtout les acquis de la mobilisation ont été de sortir de l'invisibilité. Aujourd'hui, au moins, on sait qu'il y a des femmes qui font un travail à l'usine et qui, quand même, sont confrontées aux mêmes risques, peut-être des risques qui sont à la fois les mêmes et différents des ouvriers dont on parle beaucoup. Et de l'autre côté, elles ont atteint l'objectif de la revendication, mais elles ont pu aussi, par la mobilisation, comme c'est le cas que j'ai pu lire dans les travaux de Daniel Kierkegaard aussi, grâce à la mobilisation, elles ont pu sortir de cette idée d'être un groupe d'individus, où vraiment l'idée d'être jalouse, d'être un conflit permanent les unes les autres, a permis les passages aux collectives. Et tout ça a été possible aussi grâce au fait, je reviens, c'est pas des conclusions, c'est un peu des remarques générales, je prends le dernier point, que leur mobilisation a été possible grâce au fait qu'elles ont trouvé une syndicaliste femme, qui c'est la seule femme syndicaliste dans les contextes de Piombino, ils n'avaient jamais eu une, qui vient de la même usine, donc qui a fait un travail dans la cantine, donc qu'elle peut vraiment représenter et être un repère pour la mobilisation, qu'il a pu être un repère pour la mobilisation de cette femme et les aider à devenir un collectif. Alors, on voit qu'elle part maintenant, on a réussi, ils arrivent à s'assumer les résultats de leur mobilisation, les résultats de la mobilisation qui a été, à leur avis, extraordinaire d'un point de vue symbolique, parce qu'elles ont vu les ouvriers les ouvriers sans manger, être en colère. Ils ont vu aussi les managers de l'entreprise de restauration arriver et se mettre à préparer des sandwichs pour nourrir les ouvriers. Mais ils ont été confrontés aussi à la déception du fait qu'elles n'avaient pas eu cette démonstration de solidarité qu'elles s'attendaient par rapport de la classe ouvrière. Donc, elles ont vu que elles ont pu toucher par elles-mêmes le fait que dans la classe ouvrière, il y a quand même des partitions et des différenciations. Je termine avec ces petites conclusions que je vous laisse lire, et je vous remercie pour votre attention.